Michel de Privas. Je suis en train d'écouter la décroissance, la sobriété. Moi, je pense plutôt qu'il faudrait aller vers la frugalité. C'est beaucoup plus réaliste et ça sera beaucoup plus efficace.
Bonjour, c'est Daniel, en Meurthe-et-Moselle. Sur la décroissance, je crois qu'on pourrait travailler aussi sur la notion de consommation. Pour exemple, ce qui se passe dans la mode. La mode est vraiment à la fois surconsommatrice, mais aussi très polluante. Au revoir.
Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, j'appelle de Lyon. La métropole de Lyon, donc, qui est dirigée par les Verts, avait lancé en 2020 une grande campagne en disant qu'elle donnait une subvention de 500 euros aux personnes qui achetaient un vélo assistance électrique. Donc c'est ce que j'ai fait. Nous sommes en septembre 2021. Soit 9 mois après, j'ai toujours pas reçu ma subvention de 500 euros. D'après mes informations, il y aurait eu tellement de demandes que les services de la métropole seraient submergés. Voilà. Bravo la Terre au carré.
Bonjour Catherine de Balaison, Haute-Savoie. Voilà, hier c'était une belle journée, mais c'était une des journées les plus tristes de cette période avec le retour des chasseurs, des coups de feu, les cris des chiens, les cris des hommes, la violence de cette chasse permanente 2 ou 3 fois par semaine. Ça, c'est vraiment insupportable. Jusqu'à quand va-t-on continuer à perpétrer ces pratiques que moi je trouve définitivement archaïques et brutales? Je ne sais pas quoi faire.
J'appelais parce que je suis entrepreneur et que j'ai une société qui connaît une forte croissance de la demande. Très concrètement, on me demande de plus en plus de mon produit. J'ai pas envie d'en fabriquer plus en laissant cette place disponible à la production pour d'autres sociétés. On arrive finalement à une croissance globale et économique puisqu'il y a plus d'activités, mais pour plus de monde. Pour autant, on essaye de pas croître en tant qu'entreprise individuelle puisque la croissance, c'est un petit peu une course en avant finalement dans l'économie d'une TPE. C'est créer des emplois, donc investir en machines, donc s'endetter, donc être un peu moins libre dans ses décisions ensuite. Voilà, je ne sais pas si mon message est très clair, mais en tout cas, je pense que c'est une problématique qui doit résonner pour pas mal de jeunes entrepreneurs. Au revoir.
Oui, bonjour, Yannick de Saint-Émilion, 38 ans, je suis chasseur. Et les chasseurs ne sont pas tous des gros bofs alcooliques. Les chasseurs, c'est comme toute la population. Il y en a des bons et il y en a des pas bons. C'est comme les footballeurs, c'est comme les chanteurs. Il y a des gens plus intelligents que d'autres. Donc il faudrait arrêter de faire toujours ce stéréotype du chasseur, comme on avait l'habitude de voir dans Les Inconnus. Voilà, merci beaucoup.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Et la chasse a beau défrayer la chronique et susciter de nombreuses controverses dans la société entre pro et anti, vous l'avez entendu, le sujet en tant que tel n'a fait l'objet que de très rares travaux de recherche autour du rapport au monde sauvage. Eh bien, c'est chose faite avec un ouvrage qui paraîtra demain et qui interroge nos relations contradictoires avec le vivant en pleine crise de la biodiversité. Ouvrage qui s'intitule « L'animal et la mort ». Il est publié aux éditions de La Découverte et vous en êtes l'auteur, Charles Stepanov. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu Vidard.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ethnologue, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes aussi membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. C'est une enquête que vous proposez, enquête immersive que vous avez menée pendant 2 ans entre le Perche, la Beauce et les Yvelines, et vous montrez les liens paradoxaux. On va en parler donc entre la chasse, la protection et la compassion animale. On va se retrouver dans un instant pour en discuter. Il y a beaucoup de messages déjà qui vous attendent de la part des auditrices auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission, sur les réseaux sociaux et sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous laisser vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
14h30, on passe au vert.
Je vais rester dans le thème avec la chasse à la marmotte, ça existe, oui.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaray, préparée par Chantal de Montagnier avec Léonard Ocane pour les réseaux sociaux et Philippe Duclos et Jérémy Kaufmann à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. sur France Inter.
Charles Stepanov, vous publiez donc cet ouvrage « L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage ». C'est aux éditions de La Découverte. Je le disais, c'est donc une enquête ethnographique réalisée pendant deux ans, entre 2018 et 2020, et tout près de Paris, puisque vous êtes allé dans le Perche, la Beauce et les Yvelines, là où les chasseurs sont présents évidemment, mais aussi les militants hostiles à cette pratique. Comment est-ce que vous avez imaginé, vous, cette enquête, alors que d'habitude, votre terrain de chasse, justement, c'est plutôt la Sibérie, on en avait déjà parlé dans l'émission?
Oui, tout à fait. C'était un peu un hasard, en fait. Je ne pouvais plus rejoindre mon terrain sibérien pour des raisons de santé. Ensuite, il y a eu le confinement. Et puis, j'ai eu envie de faire, comme dit Lévi-Strauss, d'éclairer le proche avec le lointain et le lointain avec le proche. L'anthropologie, c'est ça. C'est faire de la comparaison qui va mettre au jour des invariants dans les rapports de l'homme au monde, mais aussi des différences profondes entre les sociétés. Donc moi, j'avais travaillé sur la chasse, le rapport à l'animal, l'élevage et le chamanisme en Sibérie pendant 15 ans, ce qui m'a permis de développer des outils d'analyse, des problématiques, et j'ai eu envie d'appliquer ces outils, cette méthode, à quelque chose de proche, faire une ethnographie du proche, voir ce qu'on a sous les yeux et qu'on ignore, donc par une enquête d'immersion de longue durée, au-delà des stéréotypes, et en interrogeant les gens sur des questions que j'avais posées aux chasseurs sibériens également. Ouais.
Donc on peut vraiment faire une comparaison, c'est aussi un peu l'objet de ce travail, hein, entre tout le fait. Terrain sibérien et le terrain de la région parisienne, hein, parce que c'est vraiment ça. Hein.
Exactement, oui.
Et alors, on a beaucoup d'éléments pour le faire?
Alors, ce qui est frappant, c'est que l'organisation même de la chasse en France, elle est dépendante d'une histoire très longue. On peut pas aborder la chasse dans l'instant présent sans tout de suite être projeté dans ce qui se passait à la Révolution française, qui ouvre le droit de chasse à tous les propriétaires, mais qu'une réaction contre le droit de chasse auparavant, qui est réservé aux élites sous l'Ancien Régime et au Moyen-Âge. Donc en France, on a une division entre une chasse d'élite et puis des pratiques paysannes. Et il y a eu une hostilité pendant des siècles, pendant des millénaires en fait, entre les pratiques des élites et celles du petit peuple qualifié de braconnage. En Sibérie, c'est différent. Ça fait vraiment partie de la subsistance de chacun. Chacun est à la fois chasseur, éleveur, nomade. Il n'y a pas de division sociale de ce type-là. Oui. Ce qui fait que l'éthique de chasse est beaucoup plus partagée en Sibérie qu'en France.
Oui. Pourquoi vous dites d'ailleurs ces forêts si proches et lointaines à la fois, alors qui nous paraissent quand même très très familières, mais qu'on connaît mal? Pourquoi? Parce qu'il y a toute une communauté au fond qui est très mal connue des urbains, par exemple.
Oui, c'est très proche parce que les forêts d'Île-de-France, elles sont très fréquentées. Il y a 100 millions de promeneurs par an dans les forêts domaniales d'Île-de-France. Mais il y a aussi des formes de vie minoritaires qui existent, qui sont celles des habitants. Alors c'est des bûcherons, des gens qui vivent au quotidien avec la forêt. Pour qui la forêt, c'est pas un lieu de loisir, de détente, c'est un lieu de travail au quotidien. Donc il n'y a pas cette différence entre loisir et travail comme chez la plupart des habitants d'Île-de-France. Mmh. C'est un lieu de ressources, de production. On produit du bois, on produit de la viande, et c'est ça qui a été une surprise, une première surprise de mon enquête, c'est de voir des points communs dans le rapport à l'animal en Sibérie et en France chez ces gens, c'est que le gibier peut être une source d'alimentation importante. On a cette idée très largement partagée dans le sens commun, mais aussi chez pas mal de chercheurs, que chez les peuples traditionnels, on chasse pour survivre, parce que on est obligé, on n'a pas le choix, sinon on meurt de faim. Et puis d'un autre côté, il y a la chasse moderne occidentale où on tue pour le plaisir de tuer.
Et pour le loisir, quoi, finalement.
Pour le loisir, voilà. Alors c'est faux des deux côtés. Il y a du plaisir à chasser chez les peuples autochtones, et quelquefois c'est juste pour le prestige et pour le plaisir. L'alimentation venant majoritairement d'autres choses, des coquillages ou des plantes collectées ou cultivées. Et puis par ailleurs en France, donc il y a des chasseurs dans le monde rural, paysan, chez qui la viande de gibier constitue une part très importante de l'alimentation. Le sanglier, il le mange à toutes les sauces, sous forme de pâté, côtelettes, boudin. Et donc, on a véritablement ici une chasse vivrière qui, à mon avis, n'est pas assez connue et qui est très importante pour comprendre ce que c'est que la chasse dans les milieux ruraux et paysans.
Mais qui n'est pas nécessaire, vivrière, mais pas nécessaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de chasser pour s'alimenter, en l'occurrence.
Tout à fait, bien sûr, oui. L'humain peut survivre sans viande.
D'où le fait que c'est classé aujourd'hui la chasse en France dans les loisirs.
Oui, alors parce que je pense que la définition de la chasse comme sport et comme loisir, premièrement, c'est dans la loi depuis la loi Verdeil en 1964. La chasse est définie comme sport parce que à ce moment-là s'impose une vision de la chasse loisir qui est celle des élites justement. Mmh. qui ont été en conflit avec le monde paysan pendant de nombreux siècles. Au XIXe siècle, on voit des auteurs bourgeois qui essayent de rééduquer les masses paysannes en disant « on ne doit pas chasser pour se nourrir, c'est vulgaire, c'est le viandard hein. ». Cette notion de viandard, c'est une stigmatisation de la chasse paysanne qui est vivrière, qui est destinée à produire de la nourriture. D'un autre côté, l'éthique de la chasse bourgeoise, c'est une éthique de la dépense prestigieuse. On va chasser pas pour ramener de la viande à la maison, mais pour montrer qu'on est capable de dépenser, d'avoir un beau fusil, d'avoir des chiens, d'avoir un garde-chasse qu'on va rémunérer. Donc c'est deux éthiques tout à fait différentes qui s'opposent. Et évidemment, l'éthique des classes dominantes, même si elles sont minoritaires numériquement, s'est imposée à l'ensemble de la population par la loi, mais aussi dans le sens commun. Et c'est pour ça qu'on a cette vision d'une chasse de loisirs, mais qui, ce que j'ai découvert dans mon enquête, ne correspond pas à la complexité de la réalité sociale en France.
Et ça agace beaucoup d'ailleurs les chasseurs paysans, cette notion de loisir, de la chasse ou pas ?
Alors certains, oui, protestent contre l'idée de sport, par exemple. Certains me disaient, non, la chasse, c'est pas un sport, je regrette, on tue des animaux, c'est quelque chose de sérieux, et si on les tue, c'est pour les nourrir. Et donc il y a... pour nous nourrir nous-mêmes, oui. Il y a cette idée qu'on ne doit pas gâcher, et ils vont critiquer le chasseur bourgeois qui vient tirer, qui vient faire du tir, il tue des animaux et il ne les ramasse pas, il ne sait pas les découper, il ne sait pas préparer le boudin, faire la cuisine, il ne sait pas les dépecer. Donc derrière tout ça, derrière ce conflit, il y a des éthiques, mais il y a aussi des savoir-faire, des compétences, une connaissance des animaux, de leur anatomie, de la façon de les découper, et des gestes extrêmement précis qui faisaient écho tout à fait pour moi avec les chasseurs de Sibérie. Les mêmes gestes, la même façon de dépecer la viande qui sont partagés, on le voit dans les traités de vénerie anciens depuis le Moyen-Âge, et qui se sont conservés dans ces milieux populaires ruraux.
Alors Charles Sépanov, juste un mot de l'enquêteur ethnologue que vous avez été là pendant 2 ans. Comment est-ce que vous avez été accueilli par les chasseurs ? Est-ce que le dialogue s'instaure facilement justement dans un contexte aujourd'hui où il y a tant de polémiques et de controverses dans la société à ce sujet-là ?
Alors, ça dépend. Bon, moi, c'est mon métier d'ethnologue, si vous voulez, d'essayer de m'intégrer, d'écouter les gens déjà, d'être respectueux, d'essayer de comprendre, en disant tout simplement que moi, je suis extérieur à ce milieu, que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui les intéresse. Et je l'ai fait de tous les côtés, que ça soit chez... des gens qui sont très mal aimés, les veneurs, les gens qui pratiquent la chasse à courre, les déterreurs... les militants animalistes, hein, de tous les côtés, pour essayer de comprendre quelle est leur vision, qu'est-ce qui les anime, quelles sont leurs émotions derrière, quels sont leurs parcours personnels. Et donc, quand on est à l'écoute, on recueille une parole en approfondissant les échanges. Donc, en général, j'ai été bien accueilli. Il y a eu plus de soucis, disons, quand j'ai enquêté sur la chasse à courre, parce que là, c'était extrêmement tendu, qu'il y avait des suspicions d'espionnage. Alors, on m'a pris pour un espion, aussi bien du côté de la chasse à courre que du côté des militants anti-chasse, parce que les gens se sont rendus compte que j'étais des deux côtés, dans les deux camps.
Est-ce que, pardon, vous avez été amené vous-même à chasser au cours de cette enquête ou pas ?
Non, moi-même, non, je n'ai pas chassé, je n'ai pas le permis de chasse et je n'ai pas souhaité le passer de toute façon, puisque j'étais dans une position d'enquêteur, ce qui implique un regard éloigné, une distance.
Mais vous avez suivi quand même les chasseurs.
Alors j'ai fait ce qu'on appelle l'observation participante, c'est-à-dire qu'il faut être sur le terrain, on ne fait pas juste des interviews comme ça, on observe aussi, parce qu'il y a de l'indicible, il y a la façon dont c'est organisé, comprendre comment les gens arpentent une forêt, comment ils lisent des signes, lire des empreintes. Tout ça, c'est quelque chose qu'on n'obtient pas dans des interviews. Donc là, il fallait être sur le terrain. J'ai accompagné tous les matins un piégeur qui faisait la tournée des pièges. J'ai suivi les suiveurs de la chasse à courre. Et puis, j'ai participé à des battues de sangliers nombreuses et variées.
Alors, sur le compte Instagram de l'émission, on vous a posé une petite question. Deux questions d'ailleurs très simples. Est-ce que vous êtes favorable ou non à la chasse ? Donc, il y a un petit sondage qui est en train de se faire. Et puis, pourquoi chasser ? C'est une autre question qu'on vous a posée. Et vous y avez répondu très nombreux, Camille.
Très nombreux. Et la réponse qui revient le plus souvent, alors je vais pas toutes les citer, mais c'est par pur plaisir de tuer. Antoine nous dit pour le plaisir morbide de tuer. Kouta nous écrit, il y a aucune raison de chasser, sauf pour apaiser les tendances meurtrières des chasseurs. D'autres nous disent pour se croire puissant en utilisant certains termes. Voilà, il y a pas, enfin dans les messages en tout cas que j'ai sous les yeux sur Instagram, il n'y a pas une seule réponse qui va au-delà du parce qu'on aime tuer, parce qu'on a envie du plaisir de tuer.
Alors c'est possible, et finalement moi j'avais cette vision-là moi-même, j'ai grandi en banlieue, aucun rapport avec le monde de la chasse, je savais pas ce que c'était. Bon, je voyais des chasseurs, ça faisait peur quand on en voyait dans la forêt, on se dit c'est des gens qui aiment tuer. Mais alors si on réfléchit, s'ils aiment tuer, ils devraient aller travailler le week-end dans un abattoir. C'est le meilleur moyen là, si on a envie de tuer des animaux, on va en tuer des milliers en une journée. On voit bien que c'est pas ça. En réalité, et c'est là que l'enquête de terrain est intéressante, de voir que des gens, ils vont faire une partie de chasse avec leurs chiens, ils arpentent toute la journée, surtout en ce moment où il y a presque plus de petits gibiers, presque plus de lapins, de faisans, ils en voient un ou deux dans la journée, ils sont tout émus, ils reviennent, ils n'ont rien eu, et c'est pas grave. Et ça, c'est quelque chose qui est très très présent chez tous les chasseurs, en fait. L'essentiel, c'est pas de tuer. On tue si ça marche, l'essentiel, c'est le travail avec les chiens. La coopération homme-chien, et ça, ça m'a intéressé parce que ça fait des échos avec la place du chien dans énormément de sociétés humaines.
Et juste rapidement, par rapport à la question de la puissance, la chasse est quelque chose de très masculin aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un effet miroir de se sentir plus puissant quand on est un homme avec un fusil qui peut avoir un symbole très phallique, on va dire?
Oui, alors, ce qui est intéressant sur cette histoire de puissance, justement, c'est le fait que ça marche pas à tous les coups. En chasse à courre, ils arrivent. J'ai suivi pas mal de chasse au lièvre, par exemple. J'en ai jamais vu attraper un lièvre. C'est une des rares situations, si on réfléchit, dans l'humanité d'aujourd'hui, dans notre société moderne, où l'homme peut faire l'expérience de son échec face à des animaux sauvages, où il peut être vaincu par un lapin, par l'intelligence d'un lapin. Et c'est pourquoi ces gens sont fous d'admiration envers le lapin. Et j'ai découvert à quel point le lapin était intelligent grâce à ces chasseurs. Donc, et d'un autre côté, certainement, je veux pas non plus les en faire des anges, il y a probablement une jouissance au moment où on gagne, où effectivement on arrive à abattre la bête. Peut-être quelque chose de sanglant, mais c'est quelque chose de tout à fait complexe, et qui se résume pas au désir de tuer, sinon il travaillerait dans des abattoirs. Ce serait beaucoup plus simple et efficace.
Charles Stepanov, vous êtes l'invité de La Terre au Carré, l'animal et la mort. On en discute bien sûr avec les auditeurs de l'émission. Toutes vos questions, vos messages, que vous soyez pour ou contre, ça nous intéresse sur franceinter.fr. Kate, c'était Silk Sonic à l'instant.
La Terre au carré sur France Inter.
Le chasseur a un rôle important de régulation et il permet ainsi de maintenir les effectifs à des niveaux supportables, aussi bien pour l'agriculture que pour la forêt.
Les chasseurs affirment souvent que leur activité est nécessaire pour réguler les populations animales dans la nature.
On doit tout faire pour protéger et réguler qu'il n'y ait pas trop de bêtes qui viennent dans ces plaines céréalières.
C'est vrai que les populations de sangliers sont en constante augmentation. Ici, en Seine-et-Marne, ils sont si nombreux que les chasseurs peuvent en prélever autant qu'ils veulent. Mais qu'en est-il des autres animaux chassables ?
On a 3 millions de canards tués en France, il n'y a pas besoin de réguler les populations de canards. On a probablement 1,5 million de merles et de grives qui sont chassés en France chaque année. Il n'y a pas un besoin de limiter ou de réguler les effectifs de ces espèces. Ce n'est pas l'activité en elle-même de chasse qui pose problème, à mon sens, c'est le manque d'évaluation scientifique réelle qui serait confiée à des académiques indépendants pour comprendre quel est effectivement l'impact de la chasse. On pourrait faire des modèles pour effectivement dire combien peut-on prélever de certains oiseaux sans que ça mette en danger les populations.
Les quotas de chasse ne sont donc pas décidés sur des critères suffisamment scientifiques pour affirmer qu'ils permettent de protéger les espèces. Ce qui est certain en revanche, c'est que la chasse n'est pas bénéfique à tous les types de gibier. Les scientifiques affirment même que la plupart des espèces n'ont pas besoin de l'homme pour se réguler.
Voilà, extrait de France Info TV en juin 2020 avec la voix de Bruno Bernasconi, qui est chasseur, et Frédéric Giguet, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Charles Stepanoff, l'argument de la régulation, il revient souvent dans la bouche des chasseurs lorsque vous leur demandez pourquoi justement ils pratiquent cette activité.
Au niveau des institutions, certainement. Au niveau de débats face à des non-chasseurs. Mais entre eux, ils vont pas dire « Allez, on va aller réguler ce week-end ».
J'imagine. Non,
ça, c'est un argument pour le monde extérieur. Les chasseurs paysans auxquels je me suis intéressé, ils chassent parce que c'est leur mode de vie, tout simplement. C'est une forme de rapport au monde qui fait partie d'une existence rurale depuis des générations. C'est là qu'il y a c'est un rapport au territoire, je pense, essentiellement, qui se transmet par la chasse de génération en génération. Alors, il faut savoir, beaucoup m'ont dit, ils ont commencé tout petits, dès qu'ils savaient marcher.
Ouais.
Ils étaient emmenés par la famille, le grand-père, le tonton. Et c'est comme ça qu'ils ont fait connaissance avec le territoire. C'est un rapport au territoire qui n'est pas simplement « je possède la terre », qui est « je suis possédé par la terre ». C'est-à-dire que vous appartenez à des lieux et sur ces lieux à une communauté qui a en partage un certain rapport au monde animal. Donc c'est dans ces parties de chasse, commencées dès l'enfance, que on va découvrir l'envers du paysage communal. Tous ces lieux dans lesquels on va pas quand on est juste en voiture ou quand on est quand on travaille en ville, on va arpenter les champs, les forêts. On va découvrir le paysage du point de vue des animaux, savoir lire une coulée de lièvres, de sangliers. C'est tout un ensemble de savoirs écologiques qui sont transmis de cette manière et qui sont tournés vers la rencontre avec quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui est une extériorité de la vie sociale, qui est le monde sauvage. C'est l'idée que la vie sociale villageoise, elle se construit dans une interaction avec une extériorité, le sauvage. Qu'elle n'est pas autonome. Ça, c'est très différent du modèle urbain. Le modèle urbain, l'urbanisme, là, je parle en anthropologue qui s'intéresse à la longue durée, c'est l'urbanisme depuis 5000 ans, depuis qu'apparaissent des cités-états, c'est l'utopie d'un monde purement humanisé et artificiel qui n'a plus besoin d'extériorité. Eh ben, la vie de paysan-chasseur, elle est constituée sur une interdépendance entre le sauvage et le domestique. Interdépendance parce que cette petite faune qui est chassée, ce sont des espèces qui sont adaptées au milieu anthropisé. C'est exactement comme ce qu'on appelle la chasse de jardin en Amazonie ou en Afrique tropicale. Des cultures sont attractives pour un certain nombre de rongeurs. En Amazonie, les pécaris, les pacas, les agoutis. Et il y a du piégeage, il y a de la chasse. Et ça fait une source d'alimentation importante. Mais c'est la même chose. Il y a des espèces qui sont adaptées aux environnements cultivés. Aux champs, aux haies, aux bocages, c'est la perdrix, les faisans, les lièvres, les lapins. Et donc il y a un rapport de, on les nourrit puisqu'ils se nourrissent du blé, donc ils se nourrissent du travail paysan. Et en contrepartie, une forme de réciprocité, les paysans vont prélever par autodéfense et puis par subsistance, ils vont prélever des animaux, des lièvres, des lapins et en faire ensuite un repas de famille.
On va passer aux questions des auditeurs. Juste un petit mot sur le sondage sur Instagram. 78% des auditeurs de la Terre au Carré sont contre la chasse, 22% pour. Bon, question assez binaire, mais qui reflète aussi ce que dit la société dans les sondages, hein, Charles
Stéphane. Oui, ça reflète tout à fait une évolution de l'opinion par rapport à la chasse, qui est de plus en plus hostile à partir des années 1970.
Justement, on a des questions et des messages d'auditeurs en ruraux sur Twitter en particulier. Quelqu'un qui nous écrit « N'oubliez pas que 71%, ça c'est le sondage IFOP du mois d'avril pour la Fédération Nationale des Chasseurs, 71% des Français ont peur de se promener en saison de chasse, c'est-à-dire une grande partie de l'année. » Et Cyprien, lui, nous écrit que le nouvel argumentaire des chasseurs, c'est qu'il représente la ruralité alors qu'il ne représente qu'eux-mêmes, nous dit-il, et que beaucoup de gens habitant la campagne sont contre la chasse. Il n'y a pas de binarité à faire. Les chasseurs ne sont pas forcément les ruraux. Tout à l'heure, vous parliez aussi des citadins. Comment on explique cet argument massif avancé toujours, notamment par le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, Willy Schran, que les chasseurs, c'est la ruralité et que les antichasses, c'est les urbains qui sont contre?
Oui, c'est une argumentation de la Fédération des Chasseurs qui, effectivement, va essayer de... d'utiliser des enjeux actuels sur l'occupation des territoires. J'ai vu par exemple dans les Yvelines, il y a une urbanisation accélérée, on est très très proche de Paris, il y a une demande foncière pour construire des lotissements, et les représentants de la chasse lors d'une manifestation disaient ben non, nous on veut défendre les Yvelines qui laissent une place à la ruralité. Bon, c'est une stratégie, mais sociologiquement, comme vous le disiez, les choses sont beaucoup plus complexes.
Vous pouvez rappeler combien il y a de chasseurs en France aujourd'hui, Charles Stéphanoff?
Il y a 1 100 000.
Donc c'est une petite proportion.
Bien sûr, oui, oui. Mais c'est énorme par rapport à d'autres pays. En France, on est vraiment dans la tradition révolutionnaire de la chasse populaire. Alors que sous l'Ancien Régime, c'était réservé à une toute petite élite. Dans le monde germanique, c'est resté une chasse aristocratique. En France, on est un pays où des ouvriers agricoles peuvent être chasseurs. Ça, c'est un héritage révolutionnaire.
C'est un chiffre qui baisse, hein.
Oui, c'est tout à fait en baisse, oui. Mais c'est encore beaucoup plus qu'au milieu du 19e siècle, il y en avait 150 000. Donc on est beaucoup plus qu'au milieu du 19e siècle encore. Mais pour répondre à cette question, oui, la ruralité, évidemment, les chasseurs ne sont pas les représentants, a priori, du monde rural, c'est certain. Beaucoup sont en ville. Alors moi, je parle beaucoup de la chasse paysanne parce que c'est là-dessus, en priorité, que j'ai fait mon enquête. Mais j'ai aussi enquêté chez les animalistes, les militants anti-chasse, et chez des gens qui, en grande partie, habitaient dans la même région, en zone rurale, effectivement. Et les enquêtes sociologiques montrent que la sensibilité animaliste, et notamment le vote animaliste aux dernières élections européennes, est ancrée dans des zones rurales, et non pas urbaines, comme on l'imagine. Mais sociologiquement, c'est différent. Ça va être des gens qui sont plutôt en zone périurbaine, pavillonnaire, qui ont une formation universitaire, souvent, alors que la chasse paysanne, les suiveurs de la chasse à cours, par exemple, avec lesquels il y a des conflits violents, ils se tapent dessus. Ce sont des gens, au contraire, à faible capital culturel, qui sont plutôt des mondes du monde ouvrier et agricole.
Allez, on se retrouve dans un instant. Charles Stéphanoff, L'animal et la mort, ça paraît chez La Découverte.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, Camille Crenier, vous passez au vert.
Oui, je vous parle aujourd'hui d'un animal qu'on connaît bien et qui a bonne réputation surtout, icône même de certaines pubs, souvenez-vous.
Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu.
Mais bien sûr.
Voilà, la célèbre marmotte avec ses petites dents et sa petite tête mignonne de peluche, qu'on a le droit de chasser au Canada par exemple, où il y a même des tournois de chasse à la marmotte.
Ça fait au moins 20 ans que des événements du genre sont organisés. La queue la plus longue, le siffleux le plus noir, des prix sont remis selon les critères.
Le siffleux, c'est comme ça qu'on dit marmotte au Canada, où, comme ailleurs en Amérique du Nord, elle est inscrite parmi les nuisibles. Ce qui n'est pas le cas en France. La marmotte n'est pas considérée comme nuisible, mais elle est inscrite depuis le 26 juin 1987 sur la liste des espèces chassable. Et
incroyable.
Oui.
Moi, je suis tombé sur les fesses quand j'ai vu que cette chasse existait.
Alors, c'est Loïc Dombreval qui parle. Il est député de La République En Marche des Alpes-Maritimes et il a découvert donc qu'on pouvait encore chasser la marmotte en France. Dans certains départements de montagne, dont le sien, les Alpes-Maritimes, la saison vient de s'ouvrir partout en France. C'était dimanche dernier et cela jusqu'au 10 octobre, le début de l'hibernation. Le député a envoyé un courrier à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, pour lui demander de retirer la marmotte de la liste des espèces chassables, et voilà pourquoi.
La marmotte, c'est pas un animal qui prolifère en montagne. C'est pas un animal qui gêne les biotopes. C'est pas un animal qui gêne les écosystèmes. C'est pas un animal qui est agressif. C'est un animal d'ailleurs qui subit énormément de problèmes en ce moment, qui sont liés au réchauffement climatique et qui sont liés aussi au fait que les promeneurs, voyant la marmotte, animal sympathique et emblématique des montagnes, leur file à bouffer du chocolat, des chips, c'est ce que vous voulez. Et en fait, ça pose aussi des problèmes sur la reproduction de cet animal et sur le fait qu'elles deviennent de plus en plus parfois domestiques.
Alors les chasseurs rebondissent justement là-dessus pour contre-argumenter. J'ai appelé le président de la Fédération des chasseurs d'un des départements concernés, la Haute-Savoie. Il s'appelle André Munier.
Ce n'est pas les chasseurs qui posent un problème à la marmotte aujourd'hui. Ils posent un problème à la marmotte aujourd'hui. En tout cas, dans notre département, c'est l'aigle royal qui est un grand prédateur de la marmotte. Ce sont les patous qui sont là pour garder les troupeaux parce qu'on a un autre prédateur qui nous fait un mal considérable en Haute-Savoie, c'est le loup. Et ce sont aussi tous les randonneurs avec des chiens qui ne sont pas en laisse. Voilà le mal de la marmotte. C'est pas la chasse qui est responsable.
Alors, quelle est d'ailleurs la situation des marmottes en France et la menace principale pour elles? Est-ce que, en fait, la chasse fait partie de ces menaces? J'ai demandé à Sylvia Pardonnet, qui les suit, les marmottes, depuis plusieurs années dans la Vanoise. Elle est technicienne au laboratoire de biométrie et biologie évolutive de l'Université de Lyon 1.
Sans vouloir être trop polémique, je pense que la marmotte est un animal qui est très mignon, qui plaît beaucoup de manière générale à la population. Et donc sa chasse, c'est une image qui est très mauvaise. Mais en soi, ça ne représente pas le risque majeur, hein, vraiment pas.
C'est plutôt en fait la réduction des habitats avec de plus en plus de présence humaine au-delà des 1000 mètres où on les trouve et le réchauffement climatique.
Les marmottes, ce sont des espèces qui hibernent, donc elles ont besoin d'avoir beaucoup de neige pour être à une température stable sous la terre. Et donc avec le réchauffement climatique, on ne retrouve plus ces conditions d'enneigement pendant l'hiver, et donc du coup, il y a un risque pour elles d'avoir des grosses différences de température entre la nuit et le jour pendant l'hibernation, et donc de devoir beaucoup plus utiliser leurs réserves de graisse pendant l'hibernation, et donc de se réveiller avec des réserves amoindries, donc beaucoup moins d'énergie à allouer notamment à la reproduction.
La chasse n'est donc pas une menace réelle pour leur survie, d'autant que les prélèvements sont faibles. 10 par an en Haute-Savoie, par exemple, une quinzaine dans les Alpes-Maritimes, d'après les relevés des fédérations locales. Mais c'est le principe même que le député, par ailleurs vétérinaire, Loïc Dombreval dénonce.
Je ne comprends pas cette chasse. Encore une fois, sans aucun motif qui puisse expliquer les raisons pour lesquelles on a chasse, sinon l'amusement. Sinon ludique.
Mais les chasseurs, eux, avancent l'un de leurs arguments phares.
C'est une chasse ancestrale, quoi. Et aujourd'hui, nous, on a quelques chasseurs qui pratiquent encore. Ça leur fait encore plaisir et il ne faut pas leur priver de ce plaisir.
La tradition pour justifier certaines pratiques jugées obsolètes dans l'époque et la société qui sont les nôtres, au regard du bien-être animal en particulier, est interdite récemment. On a parlé il y a quelques jours, la chasse à la glu, par exemple, ou celle utilisant des filets ou des cages pour les oiseaux. Ça ne tient plus pour Loïc Dombreval.
Est-ce que c'est une bonne tradition? Au prétexte qu'elle est ancestrale, non?
Alors la ministre n'a pas encore répondu à sa demande, mais une éventuelle interdiction pourrait être la goutte d'eau à quelques mois de la présidentielle. Et alors que les chasseurs manifesteront à nouveau samedi pour défendre toutes les pratiques traditionnelles, au sujet des marmottes, ils ont une dernière cartouche, si je puis dire.
C'est un animal qui se mange également.
Ah bon, ça se mange comment la marmotte?
Ah ben ça se mange comme un autre gibier. Comment vous mangez du chamois? Comment vous mangez du cerf? Comment vous mangez une vache? Même chose. Donc on arrête de faire ces comparaisons stupides, excusez-moi.
Un petit ragoût de marmotte, ça vous dit Mathieu?
Non, je vous le laisse, mais apparemment Charles Cépalon, vous en avez mangé ou déjà?
Oui, j'ai connu la marmotte effectivement en Mongolie, où c'est un plat très très apprécié, c'est délicieux.
Et en France?
Non, en France, je suis pas de la montagne, mais en Mongolie, oui, et à tout va également en Sibérie du Sud. Quand j'étais thésard, c'est là que j'ai découvert la marmotte sous forme de plat de résistance.
Et alors, c'est comment?
On l'apprécie pour le gras, qui est très important dans ces régions-là où il fait froid. Et chez les gens, il n'y a pas du tout d'opposition comme chez nous entre l'amour de la marmotte et le fait de la manger. Ouais. C'est extrêmement frappant en écoutant toutes ces interventions.
C'est l'aspect sentimental un peu qu'on met derrière.
D'un côté, des gens, oui, c'est ça, lié à tout un imaginaire publicitaire, comme vous le disiez très bien, une espèce d'infantilisation de l'animal, une peluche en quelque sorte. Alors, les Mongols respectent la marmotte, mais plus que nous, on ne pourrait jamais imaginer le faire, puisque pour eux, c'est un ancien humain. C'est un ancêtre. C'est un ancien chasseur qui s'est métamorphosé et on voit certains au cœur, quand vous regardez ses mains, vous regardez ses doigts, on dirait des doigts de petit enfant.
Ouais.
Et en même temps, ils vont la chasser, ils vont s'en nourrir, ils apprécient. Mais alors je peux vous dire que quand ils ont mangé la marmotte, sur le squelette, il n'y a plus un gramme de viande ni de graisse. c'est entièrement utilisé. La peau de marmotte, elle est utilisée pour se chauffer, pour faire des vêtements. Voilà, donc c'est tout un rapport au monde, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre.
Mais pardon, excusez-moi, encore une fois, moi, dans mon sujet, je parlais de la France et de la société qui est, et de l'époque qui est la nôtre aujourd'hui dans des pays occidentaux comme la France.
Oui, mais je pense que...
Est-ce que vous comprenez que ça peut faire débat aujourd'hui ?
Bien sûr. La société française, elle est complexe. Venant de Sibérie, c'est ce qui m'a frappé. De voir à quel point on a des rapports aux vivants extrêmement distincts. On a des façons d'habiter la terre extrêmement différentes, avec des héritages extrêmement profonds. La vie dans les montagnes, la vie des montagnards en France, dans les Alpes, elle est plus proche de celle des Mongols que de celle des Parisiens, évidemment. Parce qu'ils savent observer l'aigle royal, ils savent comprendre les messages de la marmotte. Ils savent observer les marmottes qui enseignent aux petits, l'éducation qui se fait. Donc c'est toute une vision de l'animal, du vivant, du pays, toute une façon d'habiter la terre qui est différente. Et c'est là qu'est l'enjeu, à mon avis. En tout cas, ce que pensent beaucoup d'anthropologues et ce qu'on essaye de faire passer comme message. Aujourd'hui, la crise écologique, elle vient pas d'un conflit entre l'homme et la nature. Et il faudrait retirer toutes les modes d'exploitation de la nature. Par exemple, la forêt amazonienne. Il s'agit pas de chasser les Indiens de la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, c'est le résultat de millénaires de présence des Indiens, d'abatis, de brûlis. Le conflit réel, il est entre des façons d'habiter la terre, entre des façons d'habiter la terre qui sont plus ou moins soutenables. Et les modes de vie liés à une habitation autochtone, ancestrale, qui sont hérités de plusieurs millénaires de présence, on a de bonnes raisons de se dire que s'ils ont survécu depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, probablement qu'ils étaient soutenables, et peut-être plus soutenables que le mode de vie actuel.
Les peuples autochtones d'Amazonie, justement. On va en parler cet après-midi, parce qu'on va enregistrer une Terre au Carré qui sera diffusée demain, pour évoquer justement la lutte des indigènes, hein, là-bas sur place. Émission enregistrée avec un cacique, mais également avec Bernard Lavellier et Pierre Richard. Donc on va enregistrer l'émission cet après-midi. Si vous souhaitez nous poser des questions, bien vous pouvez le faire dès maintenant. On les transmettra à nos invités, et vous pourrez entendre l'émission demain. Charles Stéphane, vous restez avec nous, on poursuit cette déambulation autour de la chasse.
Tu m'as fait douter, tata. Je recompte encore sur les doigts. J'ai trop travaillé, tata. Tu me diras si j'ai le droit. Je veux rigoler, tata. Avec ces histoires, on peut pas. Tu m'as fait douter, tata. Ça fait peur chaque fois qu'on se voit. On s'est embrouillé, cassé les objets. J'ai tout mélangé. T'as les yeux mouillés. On s'est desserré, tata. Quand je les regarde, ça se voit. Je crois que c'est gâché.
Tata, c'était Johan, papa Constantino.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
La discorde autour d'une tradition séculaire, la chasse à courre, aussi appelée vénerie.
Moi, quand je mets ça, c'est signe que je vais passer une bonne journée.
Les antichasses, eux, sont révoltés par la traque des proies. Lors de ces parties, les chiens pistent l'animal, le traquent jusqu'à épuisement avant de le tuer.
Pourquoi torturer un animal ? Pourquoi le traquer pendant des heures ? Pourquoi une organisation comme ça autour d'un meurtre ?
Notre mode de chasse est le plus écologique, le plus naturel et celui qui se rapproche le plus de la vérité de la nature.
1983, la bataille se joue devant un lieu emblématique à Compiègne, devant le domicile de Monique de Rothschild. La baronne, grande figure de la vénerie, doit faire face à des membres de la SPA. Et là encore, dialogue de sourds.
C'est un art, madame, c'est un art.
Mais oui, mais les gladiateurs, c'était un art. Et puis ça n'existe plus, on évolue dans une société.
Voilà, et c'est toujours aussi chaud d'ailleurs, hein, Charles Stepanov, parce qu'il y a toujours des militants anti-chasse, justement, autour de la chasse à courre. Et vous le décrivez, vous parlez même d'une guerre en forêt.
Oui, de plus en plus, hein, je pense, sont constitués des groupements, des collectifs locaux autour des grandes forêts où se pratique de la chasse à courre, qui réunissent des habitants locaux, des personnes qui viennent un peu plus loin parfois, qui les rejoignent et qui vont essayer de suivre les équipages de chasse, la meute. Ouais. Pour documenter la vénerie, pour montrer des scènes qui sont choquantes et ensuite les diffuser dans les médias dans le but d'obtenir l'abolition de cette pratique.
Et des militants qui sont prêts à se jeter à l'eau, hein, pour essayer de défendre un cerf, par exemple.
C'est ça, oui. Bah, c'est une scène qui avait défrayé la chronique localement, en forêt de Rambouillet.
Ouais.
À ce moment-là, j'accompagnais un groupe de militants anti-chasse. Et puis, le cerf avait fait ce qu'on appelle en vénerie un ballot, c'est-à-dire qu'il était venu se réfugier dans un étang. Il était entouré par la meute de chiens. Et une femme s'est précipitée dans l'eau pour le défendre, pour éloigner les chiens. Alors, il ne s'agissait pas pour elle de sauver le cerf. De toute façon, il était vraiment à l'agonie. Il s'agissait pour elle de montrer un autre type de rapport à l'animal que celui de la vénerie, à savoir
l'empathie,
de protection, d'empathie, ouais. Exactement, plutôt que de violence.
Un message de Myriam sur le site France Inter. Bonjour, je ne comprends pas la position binaire pour ou contre la chasse. Je suis militante écologiste et en même temps, je suis pour certains types de chasse raisonnée. Très difficile de comprendre pour moi comment le gouvernement cautionne et encourage en particulier la chasse à courre dont on parle, ou la chasse des oiseaux et le déterrage des blaireaux, mais je ne vois pas pourquoi on devrait empêcher la chasse pratiquée avec respect de la nature et sans barbarie. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, en fait, est-ce que la situation pourrait être peut-être un peu plus apaisée, entre guillemets, si certains types, certaines pratiques dites traditionnelles et qui font polémique dans la société, étaient interdites ou même les chasseurs eux-mêmes décidaient de ne plus le faire pour faire d'autres pratiques et que les choses soient plus apaisées? Vous pensez que ça pourrait marcher?
Ben, c'est délicat de trancher, si vous voulez, c'est des éthiques, des classes sociales différentes. Par exemple, la chasse à la glu, c'est le piégeage paysan qui a été persécuté pendant des millénaires par les élites. Platon déjà vilipendait les esclaves, les paysans qui chassent avec des pièges, avec de la glu. Pendant le Moyen-Âge, c'était interdit. Louis XIV faisait fouetter ces gens-là. Et aujourd'hui, alors que ça a été permis pendant un certain temps, désormais, ça va être interdit. Ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'est-ce que c'est comme mode de vie ? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont capables d'attraper des oiseaux avec des fourmis volantes ? C'est des techniques extraordinaires qu'on aurait envie de connaître. C'est des modes de rapport aux vivants qui sont antérieurs à la modernité, à l'exploitation industrielle, qui sont destinés à la subsistance, à l'alimentation, et qui représentent une forme de complexité dans le rapport au monde pré-moderne, dont on a envie aujourd'hui, je crois, de mieux le comprendre, parce qu'on voit bien que notre rapport au vivant dominant, l'exploitation industrielle des cochons, par exemple, eh bien, c'est peut-être une impasse.
Ouais, justement, Charles Stepanov, ce rapport au monde vivant aujourd'hui, il y a aussi toute la question de l'érosion de la biodiversité. Lorsque vous interrogez les chasseurs, ce sont les premiers à en être les observateurs.
Alors oui, bien sûr. Et puis pour compléter par rapport à la question sur le rapport entre chasse et écologie, il faut quand même bien être conscient historiquement que le sentiment écologique, il naît chez les chasseurs. Évidemment, en France, les premiers, si on définit l'écologie, la préservation, certains sentiments de préservation de milieux sauvages et d'espèces sauvages, bon, ce sont les, sous l'Ancien Régime, les rois chasseurs, les seigneurs chasseurs qui ont préservé les forêts, empêché les défrichements. Au 19e siècle, ce sont les premiers à alerter des effets de l'agriculture chimique. Au 20e siècle, ce sont les premiers à alerter des effets des arsénates de plomb et des néonicotinoïdes la perdrix. Donc effectivement, dès les années 90, tout d'un coup, on observe dans toutes les fédérations de chasse des perdrix qui tombent par terre.
Mais vous dites que c'est un animal symbole aujourd'hui, la perdrix, hein, parce que justement aussi, on a recours aujourd'hui à un élevage industriel de ces animaux pour pouvoir les chasser. C'est complètement incroyable finalement, non ?
Tout à fait. Ça a été un choix des pouvoirs publics. À partir des années 30, il y a des lanceurs d'alerte dans les fédérations de chasse qui signalent que la perdrix, elle souffre des arsénates de plomb. C'est un produit toxique à base d'arsenic et de plomb qu'on utilisait pour protéger les cultures de pommes de terre. Et on constate que les perdreaux meurent par centaines, par milliers. Il y a un choix à ce moment-là du gouvernement, c'est en 1941 sous Vichy, qu'on instaure une police phytosanitaire et on fait le choix de l'agriculture chimique. En sachant que ça va détruire la faune. Les gens sont tout à fait conscients, les pouvoirs publics. Comme la chasse est importante à cette époque, puisque c'est le loisir populaire, le Parti communiste français soutient la chasse.
Mais il faut de quoi
après
chasser.
La guerre, il faut leur donner quelque chose à chasser. Sinon, on va avoir un mécontentement populaire. Et c'est là que les pouvoirs publics instaurent l'élevage industriel de gibier. Et
aujourd'hui, c'est quoi ? Combien de perdrix, par exemple, par an sont élevés pour la chasse, très rapidement ?
Eh ben, on a 3 millions, je crois, de perdrix rouges et grises.
Uniquement destinés à ça.
Voilà. Ouais. La France est devenue le premier exportateur européen de gibier.
Un message de Marion sur Facebook qui habite dans le Luberon où il dit-elle il y a beaucoup de chasseurs, ils ont une logique assez étonnante. Ils nourrissent toute l'année les animaux, surtout les sangliers, et les chassent parce qu'il y en a trop. Je pense, nous dit-elle, que la nature fait bien les choses et s'ils n'étaient pas nourris, les petits mourraient plus, donc moins de gros sangliers. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de cercle vertueux ou vicieux, suivant de quel côté on se place, Charles Stepanov, sur cette finalement entretien de certaines espèces qui pullulent parce que chassées, etc.
Tout à fait. Je relais dans mon livre les dénonciation de ces cercles vicieux par la chasse populaire, la chasse paysanne, parce qu'il y a un cercle vicieux dans la mesure où des gens qui sont propriétaires de grandes forêts, qui vont la valoriser en la louant pour la chasse, ils sont en compétition avec d'autres massifs forestiers. Ils vont avoir un meilleur prix de location, des meilleures actions de chasse s'ils ont beaucoup de gibier. Donc ils ont tout intérêt à nourrir un gibier nombreux pour avoir plus de chasseurs. Mais qui dit plus de chasseurs dit que les gens, ils veulent avoir un beau tableau de chasse. Et donc ça s'entretient indéfiniment. Et c'est comme ça qu'on a une surabondance de sangliers avec d'autres effets. Il y a le réchauffement climatique qui favorise la reproduction des sangliers.
Charles Stepanov, une découverte aussi pour vous au cours de cette enquête, ce sont les rituels initiatiques avec le baptême du chasseur. C'est assez étonnant. Il y a le rite de la dernière bouchée, par exemple, aussi, que vous décrivez. Ça, c'est vraiment un rapport, justement, à l'animal, alors même qu'on critique, justement, les pratiques barbares, qui peut tout à fait surprendre, quand même.
Voilà, je me suis demandé, est-ce qu'on a de l'animisme en France dans le milieu de la chasse ? Parce qu'on sait bien comme anthropologue que souvent l'animisme c'est lié à la chasse, c'est lié à la prédation. Le fait d'attribuer une vie sociale aux animaux, quelque chose de semblable à la vie mentale des humains, que ce soit en Amazonie ou en Sibérie, c'est le cas. Eh bien en France, oui, il y a une sorte d'animisme sous-jacent, en mode mineur, par le fait que les gens ils prêtent une vie sociale aux sangliers, dans la compagnie de sangliers. Et puis par des rituels qui mettent en scène le fait que après la mort de l'animal, on va lui offrir de la nourriture dans la bouche. Une branche, c'est le rituel de la dernière bouchée, qui a des équivalents à travers toute l'Eurasie, donc c'est un rite de chasse extrêmement ancien, qui a des échos, des indices qu'on peut interpréter comme des occurrences de ce rituel au paléolithique supérieur et qui se répand actuellement en France. Alors c'est une résurgence d'un rituel archaïque et qui répond à un besoin des chasseurs de marquer plus de respect envers l'animal, étant donné qu'ils sont appelés de plus en plus à abattre en grande quantité des sangliers. Eh bien ils veulent resocialiser ce lien avec le sanglier et donner un aspect cérémoniel à la mort.
Et on est en région parisienne, on le rappelle quand même.
Tout à fait.
Camille.
Un message à l'instant que je reçois par mail de Gérard Charolois, qui est président d'une association écologiste qui s'appelle Convention Vie et Nature. nature et qui nous écrit « Je suis en train d'écouter votre émission, fascinée par une vision gentiment paysanne de la chasse avec l'honnête chercheur et ethnologue que vous recevez. Alors qu'une immense majorité de nos contemporains réprouvent la chasse, politiciens et médias souffrent d'un étrange complexe à l'égard d'un lobby très sectaire, très hermétique à toute contestation. » Est-ce que Charles Stepanov, votre enquête est une vision gentiment paysanne de la chasse ?
Il y a les différents milieux qui sont représentés. Il y a aussi la chasse commerciale. J'ai tout un chapitre là-dessus et sur le fonctionnement de ces chasses qui transforment le sauvage, la forêt, en marchandise. J'ai un chapitre sur la façon dont les pouvoirs publics ont fait de l'élevage de gibier une marchandise également. Donc, il y a les différents aspects.
Qu'est-ce que c'est que les larmes du cerf, Charles Stepanov, parce qu'on est presque à la fin de l'émission?
Alors, c'est un thème très intéressant qui m'a permis de parcourir toute l'histoire de la chasse en France depuis le Moyen-Âge, parce que les larmes du cerf, c'est des pleurs en fait du cerf au moment où il est aux abois, où il est poursuivi par les chasseurs à l'instant de la mort. Et les chasseurs ont été très sensibles à cette histoire. Et donc il y a une forme de tradition de chasse compassionnelle, ouais, qui a donné des poésies, qui a donné des textes de Montaigne, hein, qui est nourri...
On voit l'animal pleurer.
Voilà, qui a nourri notre rapport moderne, notre sensibilité moderne à l'animal et à sa souffrance. Montaigne, hein, le premier à parler de la souffrance des animaux et à restaurer un lien de respect avec les animaux. Eh bien, c'était un chasseur. Donc il y a une forme de chasse compassionnelle qui a existé et il est intéressant de se demander pourquoi et à quelle époque on a une séparation entre un sentiment de compassion, de défense des animaux et les chasseurs d'un autre côté. C'est tout récent en fait, ça n'a pas toujours existé. Et c'est important d'avoir du recul là-dessus.
Un message de Marcel sur l'application France Inter qui nous écrit « Quand on aime tant la nature, on peut très bien remplacer un fusil par un appareil photo et parcourir plaine et forêt durant toute l'année. » Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Bien sûr, ça existe, oui. Mais moi, je suis pas là pour dire qu'est-ce que les gens doivent faire. Je suis là pour essayer de comprendre la diversité des modes de rapport au vivant.
Justement, que peut l'anthropologie ? Ce sera la conclusion de cet entretien, Charles Stepanov, hein, autour de ce sujet très clivant dans la société aujourd'hui.
Déjà, il faut essayer de mieux comprendre. Pour ça, l'enquête est nécessaire, l'immersion. Il ne faut pas juger uniquement à partir de stéréotypes. Il faut être capable de remettre en cause les sensibilités modernes en se disant qu'est-ce que notre modernité, elle crée comme rapport au vivant. D'un côté, une exploitation qui n'a jamais existé à une telle ampleur de destruction. D'un autre côté, une sensibilité extraordinaire à la violence. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de contradiction, de bizarrerie ? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de se rapporter à la violence anthropique ? Et de gérer nos rapports aux vivants qui sont prémodernes, qui peuvent nous paraître choquantes, mais qui sont intéressantes à l'heure où on remet en cause les modes de vie modernes.
Merci beaucoup. Votre ouvrage sort demain. Ça s'appelle « L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage ». C'est aux éditions de La Découverte et les auditeurs peuvent encore discuter sur le compte Instagram de l'émission. Il y a des questions qui vous ont été posées, il y a un petit sondage. Ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et surtout, laissez-nous vos messages également sur le répondeur. On les diffusera demain.
01 56 40 45 45, 24 heures sur 24.
Et apparemment, il y a plein de messages demain. Oui. On les aura donc en ligne. Merci beaucoup, Charles Stepanov.
Pur, que dit la nature ? Épisode 28.
Et nous terminons avec une bouffée d'air frais avec ce podcast et vodcast de France Télévisions avec lequel nous sommes partenaires. Expérience sonore dont vous avez maintenant l'habitude, c'est tous les mercredis en fin d'émission. Vous allez pouvoir deviner l'origine et le contexte de ce que vous allez entendre. Immersion sonore enregistrée par l'audio-naturaliste Fernand de Roussen. Alors, avez-vous une idée de quoi il s'agit ?
Pas du tout, mais je n'ai pas entendu de fusil, heureusement.
Heureusement, pour avoir la réponse, vous allez jusqu'au bout de l'expérience pure. Que dit la nature ? C'est en lien sur le site de la Terre au Carré et sur France.tv, tout ça en lien sur la page de l'émission.